Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Vendredi 23 décembre, mesdames, messieurs, toutes nos excuses pour ce retard. Bienvenue au Forum de la presse. Au menu, nous vous proposons de parler de cet accord de réadmission des migrants qui a fait couler tant d'encre et de salive. Présumé accord qui s'est soldé par l'interpellation donc de certains ministres. Dans le même élan, l'opposition a déposé une motion de censure. 33 voix sur les 96 requises se sont prononcées. Motion de censure introduite par les députés de l'opposition. La CMA se retire du CSA dans une déclaration publiée par ses dirigeants lors de la 14e session du comité de suivi. Nous en parlerons également. Bamako, deux présumés djihadistes du FLM ont été interpellés par les autorités en ces veilles de fin d'année. Attaque également d'impose la gendarmerie de Ségou, plus précisément à Saï, avec nous sur ce plateau pour discuter donc de ces actualités. Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, Badou Escouba du Carrefour, Mamadou Fofana de l'Indépendant, Abdoulaye Guindo du Procès Verbal. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Cédoubo.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue donc, mesdames et messieurs. L'accord de réadmission donc des Maliens expulsés d'Europe a défrayé la chronique toute la semaine. Un document présenté par le ministre néerlandais des Affaires étrangères Bert Koenders à l'issue de sa visite à Bamako le 11 décembre dernier a créé la polémique au sein de l'opinion. Les ministres maliens des Affaires étrangères et celui des Maliens de l'extérieur ont démenti un quelconque accord signé alors de réadmission. La demande d'asile refusée avec l'Union européenne. Dans un communiqué saluant cet accord de principe, le ministre néerlandais par contre, Bert Koenders affirmait pourtant que c'était la première fois que l'UE établit des engagements aussi précis avec un pays africain. Alors, dites-moi, Badou Escobar, que comprendre de cette situation? Elle est un peu confuse.
Cette situation est certes confuse, mais elle est assez claire aussi, puisque les deux ministres en charge des questions de Maliens de l'extérieur, je vais parler du ministre des Affaires étrangères, je vais parler du ministre de l'intégration et du ministre des Maliens de l'extérieur. Donc, ensemble, ils ont co-organisé une conférence de presse pour apporter un démenti formel à ce document. D'après ce qu'ils nous ont montré, il n'y a pas eu d'accord. Il y a tout simplement eu un communiqué conjoint dans lequel est retracé l'esprit des questions migratoires, l'esprit de ce qui sera discuté dans le futur.
Alors, Mamadou Fofana de l'Indépendant, alors signé, pas signé, il y a eu quand même une très grosse confusion à ce niveau-là, d'autant plus que l'opposition a même interpellé les deux ministres sur la question.
Bon, je pense que... Bonsoir d'abord aux téléspectateurs et à vos auditeurs. Non, moi je crois qu'en réalité, les ministres, c'est qu'ils n'ont pas été convaincants. Et c'est un document qui circule sur les réseaux. Il y a eu interprétation, ils disent pas accord ou pas accord, mais il y a eu un communiqué conjoint. Bon, je crois que c'est le début de quelque chose. Et puis, ce qui importe, c'est ce qui est écrit dans ce communiqué. C'est les différents points. Donc moi, je crois que peut-être c'est pré-accord. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler.
Un communiqué n'a quand même pas la même valeur juridique qu'un accord.
Non, il faut qu'on sorte des valeurs juridiques. Parce qu'en réalité, quand on rapatrie les gens... Et puis, non. C'est pas, moi, je crois qu'on fait un jeu de mots. En réalité, franchement, c'est un jeu de mots. Communiqué conjoint, on sait que quand il y a une rencontre, c'est toujours sanctionné par un communiqué conjoint. Quand deux parties se rencontrent, à l'issue de ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un communiqué conjoint.
Donc vous pensez qu'il y a encore une confusion?
Non, moi je crois que c'est le début.
Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, quand on remarque l'apport justement des immigrés est quand même plus conséquent parfois que l'aide au développement.
Bien sûr, ça c'est clair. Maintenant, bon, parlant de cet accord, de ce communiqué, il est signé, il n'est pas signé, c'est vraiment aujourd'hui un vrai débat. Quand on se réfère au communiqué que nous avons tous sous la main, et nous avons eu à travers les réseaux sociaux et d'autres voies officielles.
Mais il y a eu le débat. On a annoncé officiellement que le communiqué, qu'il n'y a eu aucun accord. Donc, il est où le débat finalement?
Bon, le débat, c'est autre chose. Le débat, c'est dans l'interprétation des textes. Parce que dans les points inscrits, et à la rencontre avec la délégation européenne et le ministère des Affaires étrangères, il est quand même dit quelque part la lutte contre la migration. Bon, qui dit lutte contre la migration, c'est lutter contre la pauvreté. Et peut-être dans l'école aussi, on parle aussi du retour de ces migrants dans les conditions du droit humain, dans les conditions de disposition du droit international public. Mais cependant, aujourd'hui, on ne peut pas tout à fait dire que le Mali a signé un accord avec l'Union européenne pour la réadmission des migrants.
Merci. Alors, Abdoulaye Guindo du procès-verbal, quand on regarde aujourd'hui, hein, en Europe, il y a une perception. Quand il s'agit des Syriens, on a l'impression qu'on parle de réfugiés, mais quand il s'agit d'Africains, on parle justement de migrants illégaux.
Bien. Au fait, merci pour votre question. Par rapport à la question, j'ai l'impression que cet accord a été négocié pour faire place, je crois, aux réfugiés syriens qui sont peut-être accueillis en Europe. Il faut leur trouver un point de chute. Et j'ai l'impression que c'est l'une des raisons pour laquelle l'Europe a accéléré un peu cette discussion autour de la réadmission. Maintenant, quant au débat, moi, mon intime conviction me dit, s'il n'y a pas d'accord écrit, les deux parties, en tout cas, se sont entendues sur quelque chose. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de la coopération Union européenne-État africain qu'on parle même d'un communiqué conjoint parlant de réadmission. Et moi, selon les sources, mes sources que j'ai eu à interroger depuis certains États européens, il y a bel et bien eu une entente. Même s'il n'y a pas un accord écrit, il y a eu une entente entre les deux pays pour qu'on
justement,
puisse réadmettre.
Quelle est la valeur juridique justement d'une entente tacite qui n'est pas passée par l'Assemblée? Alors que non. Le ministre Diop a clarifié qu'il ne saurait y avoir d'accord de réadmission sans un vote à l'Assemblée.
Maintenant, ce que moi je ne comprends pas, au moment où le ministre s'évertue à démentir, au même moment on a vu sur les chaînes internationales, pas des reportages de télévision, mais on a vu des ministres des Affaires étrangères de certains pays européens annoncer à leurs députés que l'Europe vient d'avoir un accord avec et le Mali. Donc si chez nous, il y a un débat autour de la valeur juridique du document, du communiqué conjoint, je pense qu'en Europe, il n'y a pas de débat. Pour eux, ce document seul suffit pour appliquer les points sur lesquels les parties ont discuté.
Alors, Badou Escobar, vous pensez justement qu'un simple communiqué pourrait justement permettre à l'Europe, à l'Union européenne, de rapatrier des Maliens?
Monsieur Diadji, parlons en toute objectivité. Vous savez que depuis 2012, le Mali est devenu l'homme malade des pays du continent africain.
Depuis la crise.
Depuis la crise multidimensionnelle de 2012. Donc, le Mali est devenu l'homme malade des pays du continent africain. Bert Konders, peut-être, en tant que ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas,
c'est ça.
Et en même temps de l'Union européenne.
Bert Konders, hein, qui connaît bien le Mali, hein, puisqu'il a dirigé justement la MINUSMA pendant une année.
Donc peut-être qu'il a vu ça dans les yeux des autorités, il a vu qu'en partant en Europe, il peut se prêter à ce jeu-là pour faire comprendre aux uns aux autres que le Mali a bel et bien signé un accord de réadmission des immigrés et dans l'esprit des accords de la Valette, parce qu'il y a eu un sommet à la Valette qui a réuni en 2015 bon nombre de pays africains et bon nombre de pays européens au sujet de la migration.
Alors, vous souhaitiez réagir.
Il ne faut pas noyer de poisson dans l'eau. Le monsieur, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a été envoyé par le ministre des Affaires européennes de l'Union européenne, si vous m'excusez. C'est ça. Donc le problème, vraiment, il ne faut pas essayer de noyer. Moi, je crois que le débat est très clair. Seulement, je crois que le gouvernement a engagé quelque chose contre quelque chose. Ils ont promis de l'argent. Mais il y a des points, parce que là, les points...
Surtout que quand on voit en Belgique, hein, le dernier sommet qui a dit que l'aide aux pays, justement, africains était conditionnée au nombre de migrants des pays.
Non, mais vraiment, moi, je crois qu'il faut voir... Je crois qu'il y a une mauvaise communication de la part du gouvernement. Il ne faut jamais mentir à son peuple. Si le gouvernement est obligé... Parce qu'on sait que, franchement, on a le couteau sous la gorge. On a les forces Barkhane, on a un truc, c'est un pays sous perfusion. Donc je crois qu'il y a des pressions. Donc il y a des pressions extérieures, des pressions diplomatiques. On ne peut pas dire ça au peuple, non, il faut le dire clairement.
Alors, dernière question sur ce volet, donc Benjamin Sangala, est-ce que vous pensez justement qu'il y a une mauvaise communication de la part du gouvernement?
Bon, peut-être, parce que déjà, on est une semaine dans ce débat et jusqu'à présent, la population en tout cas ne croit pas à ce que quand même son gouvernement lui dit, parce qu'il y a tellement de communication autour de la chose. D'abord, on a eu les notes verbales de l'ambassade des Pays-Bas. On a eu également les différentes interprétations à la semaine nationale et le Premier ministre et tant d'autres, la motion de censure de l'opposition. Jusqu'à présent, ça ne passe pas.
Justement, à propos de la motion de censure, qu'est-ce que vous pensez de cette motion de censure de l'opposition? Est-ce que c'était purement justifié? Est-ce qu'on n'aurait pas pu simplement envoyer une lettre écrite, sous pli fermé, au ministre concerné?
Bon, malgré la procédure, je crois que deux motions de censure dans une législature, c'est déjà trop. Et déjà que ça met quand même en mauvaise position le gouvernement en tant que tel. Et également, c'est vrai, ils ont sauté sur l'occasion également. Sinon, c'est une motion de censure qui était en vie. Ils ont sauté sur l'occasion et également introduire en tout cas ce sujet de migration dans le sujet.
Merci. On va prendre quelques secondes de pause et nous reviendrons pour la suite de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vous suivez donc le forum de la presse du studio Tamani. Un autre sujet à présent, après donc l'accord de réadmission, c'est le retrait de la CMA du comité de suivi de l'accord. La 14e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation qui a tourné très court. Une partie de la CMA a claqué la porte suite à une divergence sur l'inclusivité au sein de la coordination. La CMA justifie cette décision par la hausse des violences et l'absence de progrès en matière de réforme de la part du gouvernement malien. Elle estime que 18 mois après la signature, aucun des points inscrits dans la période intermédiaire n'ont été opérés de façon concertée entre les parties. La CMA dénonce également donc des violations flagrantes de l'accord et aussi la création de multiples groupes. Badou Escoba, qu'est-ce que vous pensez justement de ce retrait de la CMA, du comité de suivi? Est-ce que ça va avoir un impact concret sur le processus de paix en cours?
Vous savez, les leaders de la CMA, c'est des fins calculateurs. Ils vont là où le vent souffle. Ils veulent profiter de la tenue du sommet France-Afrique pour, n'est-ce pas, se faire entendre, pour se faire entendre vis-à-vis de l'État du Mali. L'État du Mali, jusqu'à preuve du contraire, a fait preuve de bonne foi. Peut-être qu'il y a quelques petites difficultés par rapport au cantonnement des ex-combattants. Et ces difficultés sont dites aux membres de la CMA eux-mêmes. Parce qu'on avait demandé à ce qu'on donne une liste de combattants. Et apparemment, la CMA a dépassé ce quota. Et l'argent qui a été débloqué...
Est-ce que ce sont les seules difficultés CMA parle également de la multiplication des mouvements. On a vu la création du CJA, du MSA et bien d'autres.
Oui, justement, c'est ça le problème fondamental. C'est qu'au sein même de la CMA, ça ne va pas. Il y a certains membres de la CMA qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'installation des autorités intérimaires parce que lors du choix de ces autorités intérimaires...
Notamment la CPA.
Il y a la CPA. Et lors du choix de ces autorités intérimaires, le MNLA et le HIA ont été privilégiés par le ministre Agarlaf. C'est ce que certains leaders de la CMA disent. Ils disent que avant que les autorités intérimaires ne soient mises en place, ils ont rencontré le ministre Agarlaf qui a mis sous le boisseau leur proposition.
Alors, Mamadou Fofana de l'Indépendant, quelle lecture faites-vous de ce retrait? Est-ce que c'est juste stratégique ou est-ce que vraiment on patauge?
Bon, vous savez, ma réaction est que le Mali, là, il faut que ça reste un peu debout. Si on avait les mêmes capacités que la Syrie, on aurait pu libérer choses Kidal, comme Alep vient d'être libéré. Moi, je crois que je suis partisan de la manière forte, parce qu'en réalité, ça, c'est des jeux de ping-pong. Non, ça sert à rien.
Alors, la CMA dénonce.
C'est un jeu de ping-pong. Le Premier ministre a eu, je ne sais pas si vous avez entre les lignes, le Premier ministre a dit à l'Assemblée, tout ne dépend pas du gouvernement. Moi, je crois que, franchement, je mets en cause vraiment le fait que certains acteurs ne soient pas sincères. Et cela va nous traîner pendant 40 ans. Jusqu'à la division de ce pays-là, à la partition de ce pays. Donc moi je crois, au lieu qu'on tergiverse, au lieu qu'on perde du temps dans les salons, dans les grands hôtels, je ne sais pas où bien attendre les perdiens, parce que même ce comité de suivi, c'est les partenaires, je crois, qui payent. C'est des gens qui sont payés à entre 2 et 4 millions. Donc je crois qu'il y a même des arriérés de paiement. Je ne sais pas si c'est dû à quoi, parce que les partenaires ont dit, nous ne voyons pas d'évolution sur le terrain. Donc on ne paye pas. Donc je crois qu'il y a même peut-être ces frustrations, peut-être l'argent n'est pas tombé. Mais l'État doit s'assumer. Il faut qu'on se prépare à libérer Kidal, accord ou pas accord, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas besoin d'attendre vraiment que les gens se moquent de la République. Moi, je crois que nous sommes dans cette phase. Ils prennent de l'argent.
Mais on a vu quand même Benjamin Sangala qui a eu une condamnation justement de l'ambassadeur de l'Allemagne, une condamnation de la CMA. Hein.
Oui.
Est-ce que vous pensez que la communauté internationale se réveille enfin ?
Je crois peut-être oui. À mon avis, la communauté internationale aujourd'hui doit réagir. Réagir également et clarifier le débat avec la CMA. On ne peut pas continuer comme ça. Toujours le même recommencement. Chaque fois, nous recommençons. Demain, peut-être, ça va être un autre groupe. Ça ne peut pas aller. Donc aujourd'hui, l'État malien et ses partenaires, en fait la communauté internationale, doit également clarifier le jeu et également interpeller la CMA.
Que veut dire clarifier le jeu ?
Fofana de l'indépendant.
Clarifier le jeu. Si c'est un jeu, vous voyez, on revient au système de jeu. Donc c'est un jeu, je ne sais pas si c'est un jeu de quoi, badminton ou quoi.
C'est un jeu, pourquoi ? Parce que déjà, aujourd'hui, on a tellement négocié. On a tellement négocié et chaque fois, nous sommes dans les créations de milices, dans les créations de mouvements, ainsi de choses. Donc finalement, c'est un conflit d'intérêts qui profite peut-être à beaucoup d'autres. Comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont payés à des hauteurs, à des millions par-ci, par-là, et ils n'ont pas intérêt à ce que vraiment nous finissons avec.
Des gens qui gagnent plus que le président.
La CMA aussi accuse.
Alors monsieur Guindo, on a vu que la CMA accuse également cette communauté internationale, aussi bien le gouvernement que la communauté internationale, de patauger, de ne pas faire avancer les choses. La CMA également condamne justement des violations par rapport pour l'attaque de ses positions.
Mais par rapport aux deux accusations de la CMA contre la communauté internationale, moi je pense que c'est une façon de nous endormir. Parce que si vous voyez que la CMA se comporte de la sorte, c'est parce qu'elle est dans les bonnes grâces de la communauté internationale.
Mais la communauté internationale qui réagit également avec la condamnation de l'Allemagne.
L'Allemagne seule ne représente pas aujourd'hui la communauté internationale. Il y a la MINUSMA, l'ONU qui est garante de l'accord signé. Et on a vu que sur le terrain, le gouvernement malien a fourni beaucoup d'efforts. Mais du côté de la CMA, les efforts que la CMA doit fournir, ses efforts tardent à venir. Donc, accuser la communauté internationale, c'est un peu une façon de nous endormir. Maintenant, accuser l'État, c'est un peu une fausse accusation, parce que sur le terrain de l'accord, on reconnaît que notre gouvernement fait beaucoup d'efforts, même s'il y a des difficultés. Maintenant, la CMA, de son côté, fait quoi pour qu'on puisse avancer ? Maintenant, par rapport aux attaques, aujourd'hui, la CMA est allée signer les accords parce qu'on a pensé que c'est elle qui contrôle le Nord. Donc si elle n'arrive pas à sécuriser les populations, elle n'arrive pas à sécuriser ses positions, donc ça veut dire que soit elle n'est pas celle qui contrôle le Nord, il y a peut-être les véritables maîtres du Nord.
Alors le MOC justement qui devait commencer le 15 décembre dernier, qui prend du retard, est-ce que vous pensez que ce retrait de la CMA est de nature à ralentir totalement le processus, ou à bloquer le processus de paix en cours ?
Bien sûr que ça va bloquer, dans la mesure où c'est des patrouilles mixtes. Maintenant si la CMA se retire en tant que signataire de l'accord, ça va retarder. Mais comme Fofana l'a dit, il faudrait qu'à côté de l'accord, notre gouvernement, l'État prenne ses responsabilités. Parce que celui qui veut la paix prépare la guerre.
Alors, Banou Escobar,
vous savez qu'il y a un problème qui est là. La CMA trouve que le gouvernement est en train d'équiper d'autres groupes armés pour pouvoir, n'est-ce pas, torpiller les négociations de paix d'Alger. Or, en réalité, c'est la CMA même qui est en train de faire preuve de mauvaise foi. La preuve, quand des soldats de l'opération Barkhane et des femmes et des militaires maliens ont voulu entrer dans la ville de Ber, la CMA s'y est opposée. La CMA s'y est fermement opposée. Donc, dans l'esprit de la CMA, n'est-ce pas, et c'est reconnaître dans l'accord, c'est compromettre son propre avenir. Je m'explique, parce que j'ai des explications claires à donner. Parce
Allez-y.
Que si vous prenez le HCIA et le MNLA, surtout le HCIA, il y a Dagali qui tire les ficelles. Donc, le HCIA est entre les mains de Yad Agali. Donc c'est Yad Agali qui tire les ficelles.
Mais le HCIA qui est quand même signataire de l'accord de paix, contrairement à Ansar Dine de Yad Agali.
Oui, le HCIA est signataire de l'accord. Mais Qu'est-ce qui a poussé le RCI à signer l'accord? Le RCI a signé l'accord sous la pression de la France.
Alors, plusieurs tendances nous disent aujourd'hui, plusieurs analystes nous parlent de négociations avec Yad Agali. Est-ce que vous pensez que c'est une option à envisager?
Ce serait l'aveu d'un énorme échec. Négocier avec Yad Agali, ce serait la fin de la République du Mali. Parce que c'est négocier avec un terroriste, quelqu'un qui est décrit, quelqu'un qui est dénoncé, n'est-ce pas, qu'on signe un accord avec lui. Il y aura d'autres Yad Agali. Il y aura d'autres Yad Agali.
Quand on regarde le monde, négocier avec ces terroristes-là, ça échoue partout. Je ne sais pas pourquoi on veut que le Mali, même ceux dont vous parlez, SEMA, quoi, HUA, etc., MNL, vraiment tout ça là, moi je crois, le Mali, vraiment c'est un complot. On est au centre d'un complot. Et à tout, combien d'années Ibeka est là il y a 3 ans. Je crois que jusque-là, franchement, je crois que c'est la case départ. D'ailleurs, je ne sais pas même si la case départ serait même mieux, peut-être. Parce qu'aujourd'hui, nous ne contrôlons pas Kidal. Donc moi, je crois qu'on a fait tous les calculs. On a un gouvernement, certainement, qui est acculé aujourd'hui, qui est victime. Vous savez, la communauté internationale commence vraiment à même accuser le gouvernement de laxisme ou de ne pas avancer. Mais comment le gouvernement peut avancer quand il fait face à des gens qui sont de très très mauvaise volonté, qui préfèrent les hôtels de 5 étoiles de Bamako, que c'est vraiment qu'ils ne contrôlent même pas.
Badou, est-ce que vous souhaitez réagir?
Qui contrôle rien. Oui, je souhaite réagir rapidement. Tant qu'il y aura le commerce de la drogue, tant qu'il y aura la contrebande, certains au sein de la CEMA ne souhaiteraient pas qu'il y ait la paix dans le nord de notre pays. Je pense que le gouvernement malien doit se réveiller, mettre l'armée nationale dans les conditions pour qu'elle puisse récupérer la ville de Kidal. Vous savez qu'au Mali, on essaie de sacrifier.
Vous parlez de l'armée nationale, mais et la communauté internationale, et l'accord de paix, qu'est-ce qu'on
fait? La communauté internationale n'a jamais joué pleinement son rôle.
Alors, on fait quoi de l'accord de paix, finalement?
La communauté internationale a été complice des terroristes à Alep. Je donne l'exemple du Sri Lanka. Le Sri Lanka a mis 40 ans avant d'écraser les tigres taboules. Ils ont eu un président qui a pris ses responsabilités, qui a foulé au pied la communauté internationale. Parce que. Je vais terminer tout de suite. Dès qu'on parle de rébellion, si ces rebelles sont soutenus par l'Occident, on parle de violation des droits de l'homme, etc. C'est que les forces régulières subissent. On n'en parle pas. À longueur de journée, on tue les soldats maliens. Ça, c'est qu'il faut le dire. C'est parce que le Mali est sous embargo. On refuse à ce que le Mali ait des armes. Le président de la République l'a dit, le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre. Le Mali a besoin d'armes, le Mali a besoin d'être équipé pour écraser ces gens-là. On ne peut pas continuer avec cette situation. Une poignée d'individus ne peut pas continuer à nous empêcher de dormir, ce n'est pas possible.
Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, est-ce que justement la signature de l'accord de paix ne dénote pas d'une avancée notable dans le processus de paix? Est-ce qu'on ne peut pas justement exploiter, appliquer cet accord-là? Tout simplement.
Bon, cet accord souffre beaucoup de...
Beaucoup d'insuffisance,
si vous le dites comme ça. Et également, on ne peut pas avancer comme ça. Du fait que quand on n'a pas la bonne volonté, la bonne foi d'avancer, vous voyez déjà le retrait de la CEMA, peut-être demain, bien avant que la CEMA ne se tue, il y a eu d'autres groupes également.
Il parle de suspension. De leur participation.
D'accord. Quoi qu'il en soit.
Une suspension, d'ailleurs, il laisse l'entendre, qui pourrait tourner court, qui ne va peut-être pas durer.
Donc, ça veut dire que déjà.
Est-ce que c'est juste stratégique, finalement?
Peut-être, comme l'autre l'a dit, c'est peut-être pour mieux se faire voir au sommet France-Afrique qui arrive déjà. Mais je crois qu'en tout cas de cause, la communauté internationale, y compris le Mali, doit prendre en tout cas ses responsabilités vraiment, et en finir avec. Qu'on remette tous en cause cet accord et on reparte à la case de départ.
Merci. On a vu justement, Badou, si vous le permettez, on va aller vers un autre thème justement. On a vu des scènes de violence et d'attaques qui continuent dans le nord du pays et on a vu des attaques ces derniers mois également dans le centre quand on voit Koulikoro, Banamba, le poste de péage, mais également à Nyono ou Djabali. Cette fois-ci, c'est le poste de la gendarmerie de Saï qui a été la cible d'attaque. Des individus armés sur des motos ont attaqué le poste. Bilan, un mort et un blessé. Alors, en ces veilles de fin d'année, est-ce que vous pensez, M. Guindo, que le pays est sécurisé? Quand on voit des attaques dans le centre du pays.
La recrudescence de ces attaques prouve que le pays n'est pas sécurisé, même si certaines parties du pays sont sécurisées. Aujourd'hui, Bamako, on a l'impression que Bamako est, est bien sécurisé avec la présence policière et les attaques à Bamako ont connu
beaucoup de mineurs.
Beaucoup, voilà, mais on a l'impression que les autorités ont oublié.
Je signale déjà à nos auditeurs qu'on a eu ces informations de la police depuis hier. Depuis le nouveau dispositif, il n'y a eu aucun braquage à Bamako.
Voilà, donc Bamako, on a l'impression qu'on a sécurisé Bamako en oubliant les villes de l'intérieur. Or, là-bas aussi, c'est des Maliens qui vivent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la sécurité doit se déployer sur l'ensemble du territoire. Et pour le faire, il faut des moyens. C'est vrai que l'État est en train de se battre. Mais quant aux attaques qui se déroulent dans les zones un peu reculées, au centre, au nord, c'est des attaques asymétriques. Là, il faut peut-être avoir des moyens aériens pour pouvoir anticiper sur les assaillants. Et moi, je pense que c'est sur ce point-là que l'État doit faire beaucoup d'efforts. Comme Badou l'a dit, il faut faire tout pour qu'on puisse au moins acquérir des armes, surtout des moyens aériens, mener des vols de reconnaissance. Parce que c'est des attaques asymétriques. Ce n'est pas des attaques où on a l'ennemi en face, on se tire des balles. C'est des gens qui viennent par surprise. Et il faut doubler l'effectif des policiers, des militaires dans les zones les plus reculées.
Merci. Badou Escoba, dites-moi, est-ce que Bamako est prêt à recevoir ces ordres de marche quand on voit qu'à Ségou à côté, à Saï et à Nyono, à Djabali, qui a des problèmes?
Non.
Pour le sommet France-Afrique.
Pour le sommet France-Afrique, Bamako est en mesure d'accueillir le sommet France-Afrique. Et c'est le lieu de rendre hommage au ministre de la Sécurité, le général de brigade Salifou Traoré. Il a tenu ses promesses parce qu'il avait dit en son temps que Bamako et sa périphérie seront sécurisées, et ce qui est en train d'être fait. Le problème, ce n'est pas ça. Quand on parle de Bamako, les rebelles sont rentrés en N'Djamena deux fois. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est l'intérieur du pays. Il faut sécuriser l'intérieur du pays. C'est lui qui est mort à Saï, c'est mon cousin. C'est extrêmement grave. Dans un poste de gendarmerie, il n'y a même pas d'armes. Il y a un ou deux soldats, un ou deux gendarmes, deux armes, une arme pour deux gendarmes. Ça ne peut pas compter des armes qui datent des années 50.
Donc, en fait, il y a un problème de moyens qui s'oppose.
Il y a un problème de moyens qui
s'oppose. Nos forces de défense et de sécurité.
Nos forces de défense et de sécurité ne sont pas dans les conditions pour pouvoir combattre. Ce n'est pas avec des vieux cruisers qui datent des années 50 qu'on va combattre ces gens. C'est la guerre asymétrique. Ils viennent en moto armée jusqu'aux dents. Donc, ils surprennent nos forces de sécurité, ils les bougent et ils continuent. Ça ne peut pas continuer. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut qu'on augmente les effectifs de nos militaires dans ces postes. Les postes sensibles doivent être sécurisés. Prenez le cas du Burkina. Quand il y a eu l'attaque du poste militaire d'Intagom, quand il y a eu l'attaque de Nabougou à 45 km de Djibo, on a tout de suite senti les autorités burkinabées prendre les mesures nécessaires, verrouiller leurs frontières. C'est ce que l'État malien doit faire. Les zones sensibles doivent être sécurisées. On doit augmenter l'effectif des militaires. Vous envoyez deux gendarmes sécuriser un poste de contrôle, deux gendarmes, une arme. Ça ne peut pas continuer. Il faut leur donner les moyens de se défendre. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas envoyer les gens à la mort comme ça. Il faut les équiper, il faut les entraîner, il faut que les équipements soient adaptés à la réalité du terrain. C'est une guerre asymétrique.
Merci. Mesdames et messieurs, exceptionnellement, vu le retard qu'on a accusé, on ne va pas prendre donc la deuxième pause. Monsieur Fofana, vous pensez qu'il y a un réel problème d'équipement au sein des forces armées de défense? De volonté, de gouvernance ou d'équipement?
Bon, je ne peux pas dire que le gouvernement n'a pas la volonté. Peut-être que c'est la stratégie qui manque, parce qu'en réalité, tout gouvernement, je ne peux pas faire injure au gouvernement. La République dire que c'est il ne veut pas assurer la sécurité des populations. Mais seulement, je crois qu'il y a un manque de moyens, il y a une stratégie à définir. Et puis, bon, le problème, moi, je crois aussi qu'il faut libérer le Nord. Tout ça, tout l'insécurité au Sud, c'est lié à l'insécurité au Nord. Si nous arrivons à libérer Kidal...
Mais il y a un accord de signé...
Non, l'accord dont vous parlez là, à Alep, on a... Non, je vous dis, non. Aucun accord ne peut nous empêcher de recouvrer la souveraineté sur l'ensemble de notre territoire. Aucun accord.
Est-ce qu'on en a les moyens?
C'est ça. Donc le problème, c'est ça. C'est question de moyens. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Mais à la place du... Si je suis à la place du Premier ministre, j'allais demander une souscription nationale. Franchement, je ne sais pas sous quelle forme.
L'effort de guerre.
Et pour contribuer à l'effort de guerre. Une souscription nationale. C'est-à-dire exceptionnelle. Je ne sais pas combien, quel montant ça va faire. Vraiment pour doter notre pays, libérer le Nord. Quand on libère le Nord, là, c'est tout ce dont on parle, les attaques des postes, des prisons, etc. Là, tout ça, nous pourrons vraiment sécuriser le pays. Mais on manque de moyens, d'armes
il y a les problèmes, le budget national. Le budget national, ça ne peut pas suffire. Il faut que vraiment l'État fasse une souscription nationale. Peut-être d'autres, les gens vont dire que déjà nous souffrons, mais je crois que nous faisons ça pour la génération à venir. Il faut qu'on puisse libérer ce pays avant la fin, avant le premier le mandat, parce que avant la fin du mandat d'Ibeka. Je parle de ce premier mandat, hein, parce que d'autres parlent déjà du second mandat, mais je crois qu'il faut qu'on termine d'abord le premier mandat pour parler du second mandat.
Alors, allez-y rapidement, Badou Escobar.
Nos militaires n'ont même pas de gilet pare-balles. Il y a un officier français qui a dit au début de l'opération Serval que le militaire malien, c'est le kamikaze par excellence. La guerre est en train de se déplacer vers le centre.
La chair à canon.
Le gouvernement malien ne contrôle plus le delta central du Niger. L'autre jour, peut-être que des militaires ont mené une incursion dans la zone de Diafarabi, ils ont démantelé une base de touristes. Mais cela ne suffit pas. Il faut multiplier les actions, il faut intensifier les actions. On attend encore les résultats de l'opération Senou.
Benjamin Sangala, est-ce finalement une fatalité qu'on n'arrive pas à sécuriser ? Le problème se déplace, hein. On n'est plus au nord du pays, là on est au centre.
C'est triste et c'est très grave. C'était grave. Et Badou a parlé de non-équipement de nos militaires. Puisque nous sommes aussi dans une guerre asymétrique, je crois qu'aussi il faut, pour nos armées, pour...
Mais où est passé justement toutes ces aides promises par la communauté internationale?
Qu'on n'a pas vu. Mais pour ce qui concerne nos hommes sur le terrain, je crois qu'ils doivent aussi redoubler de vigilance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours continuer à entendre les mêmes types d'attaques. Toujours c'est les attaques dans les différents postes. Donc ça
mais ils n'ont pas d'armes.
L'EITM n'a pas joué son rôle. Les Européens ont envoyé l'EITM pour former nos militaires, les entraîner. Ça veut dire que
les formations de l'EITM qui continuent. Donc, je vous propose, messieurs, de nous acheminer justement vers un autre thème. Une bonne nouvelle cette fois-ci. Il s'agit de l'arrestation de deux djihadistes à Bamako. Les forces de sécurité maliennes ont arrêté le week-end dernier les deux djihadistes. Il s'agit de Boubacar Cissé alias Bouri et Souleymane Bari, considérés comme deux des lieutenants du prédicateur Amadou Koufa du Front de Libération du Massina, qui est allié justement en Sardine du Massina. Alors, est-ce que vous pensez, M. Guindo, que c'est une bonne nouvelle finalement,
hein? Bien sûr, si il s'avère que c'est des véritables terroristes, des véritables lieutenants de Amadou Koufa, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où ça rassure les populations sur le fait que les services de renseignement s'activent à pouvoir sécuriser plus le territoire. Parce que on a parlé d'insécurité. Le premier élément pour assurer la sécurité, c'est un service de renseignement fort. Mm-hmm. Il faudrait qu'on soit capable d'avoir les renseignements en temps réel, avertir les forces sur le terrain en temps réel. À un moment donné, on avait constaté que notre service de renseignement était défaillant parce que certaines attaques pouvaient être anticipées par les services de renseignement. Mais si aujourd'hui ils arrivent à arrêter des lieutenants de Amadou Koufa, ça ne peut que nous rassurer.
Et n'est-ce pas inquiétant que ce soit à Bamako, justement, dans qu'on arrête le logisticien du groupe, ouais, et également celui qui est chargé, Souleymane Bari, de recrutement.
C'est là tout le danger, parce que je l'ai dit, j'ai parlé de services de renseignement. Donc des gens qui sont à Bamako, ça veut dire qu'ils communiquent avec l'extérieur. Le Mali est en guerre, en situation d'insécurité. Les services de renseignement doivent avoir des moyens capables de contrôler 90% des communications. Donc, comme ils sont d'abord rentrés à Bamako, ils ont pu loger dans ces mosquées. C'est vrai, même les pays les plus sûrs n'arrivent pas à contrôler tout.
On a vu le cas de l'Allemagne,
donc, juste quelques jours. C'est une bonne nouvelle s'il s'avère que c'est les véritables lieutenants, si ce n'est pas encore...
Du mini-frite.
Voilà un canular que nous tend la sécurité. Si c'est du vrai lieutenant, c'est à féliciter.
Est-ce qu'il y a un problème de confiance justement entre les autorités et les citoyens, hein, puisque vous...
Oui, parce que après l'attaque de Djabali, on a vu le supposé terroriste qui avait été présenté à la télé comme un lieutenant de Amadou Koufa. Ouais. Il est ressorti qu'il était en prison il y avait 6 mois de cela. C'était un petit coup de pub pour les agents de sécurité. Donc, ce qui fait que, comme tu l'as dit, même le dossier sur la réadmission, il y a un problème de confiance entre aujourd'hui les populations et nos autorités. Comme Fofana l'a dit, il faut qu'ils arrêtent de mentir aux populations. Parce que chaque fois qu'ils mentent, les populations découvrent la vérité. Et quand ils disent la vérité, les gens n'ont plus confiance en eux. Il faut qu'ils... Donc si c'est le vieux lieutenant, on ne peut que saluer les services de renseignement et on les encourage à continuer sur ce chemin. Surtout, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la fin de l'année. C'est des moments propices aux attaques.
Alors, très rapidement, Badou Escobar,
les services de renseignement maliens ont plus
d'efficacité. Est-ce que ça veut dire justement qu'il y a des cellules dormantes à Bamako. Hein.
Mais il y a des cellules dormantes à Bamako. Ça, tout le monde le sait. Et les services de renseignement maliens ont toujours été efficaces. Les services de renseignement maliens ne sont pas dans les conditions. Ceux qui sont chargés de mener ces opérations ne sont pas dans les conditions. Sinon, tout le monde connaît les degrés d'efficacité. Quand ils veulent, ils peuvent. Dès qu'il y a un événement, on place en état d'alerte les services de renseignement maliens. Il suffit de quelques heures pour qu'ils dénuncent les terroristes, pour qu'ils dénuncent l'auteur de tel ou tel acte terroriste. Mais il y a un problème fondamental que j'aimerais souligner, Djadji.
Très rapidement.
Il faut qu'on résolve le problème du chômage. Parce que ces terroristes-là profitent du chômage. Ils savent que les jeunes sont en train de chômer.
Comme la migration aussi.
La migration, les jeunes sont au chômage, ils n'ont pas de travail. Vous prenez la région de Mobutu où les jeunes vivaient du tourisme, il n'y a plus de tourisme, donc ils sont à la merci de ces gens-là. Et ceux qui ont attaqué l'hôtel Nord-Sud, le petit qu'on a bâti, il avait 22 ou 21 ans.
Alors, Badou Escoba, est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de s'inquiéter, hein, vu qu'on a arrêté deux lieutenants quand même de
Fofana.
Non, moi je crois que, vous savez, ce qui m'aurait enchanté, c'est si j'avais appris qu'on a tué deux lieutenants. Parce qu'en réalité, arrêter là, au Mali là, ça ne sert à rien.
Ils peuvent être source d'information. Hein,
non, on a toutes les informations. C'est pas ça. Ça dit, il faut qu'on arrive à abattre les gens. Ça dit, l'État doit s'imposer. Et regardez comme ça se fait dans les pays même qui se disent très démocrates là. Mais on ne donne pas le temps à un terroriste d'aller devant le tribunal. Non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ces deux-là, parce que le Mali, on sait que c'est des terroristes, mais il fallait les tuer dans la mosquée.
Alors,
il faut donner l'exemple.
Amédou Coulibaly
et puis pour, et puis pour une minute pour dire que je crois que les ministres maliens, vous n'avez pas dit, il y a un ministre qui est en France. Depuis le matin, on a vu sur les réseaux sociaux que le consulat du Mali occupé et le ministre qui doit
animer.
Ouais, le ministre, on demande la démission du ministre. On revient à la confiance entre le gouverné et le gouvernant. Moi, je crois que l'État doit tirer toutes les conséquences.
Alors, on va laisser. Il nous reste à peine 4 minutes. Hein. Benjamin Sangala, dites-moi, c'est quand même une bonne nouvelle hein, qu'on ait arrêté deux lieutenants de Amadou Koufa, mais on a l'impression parfois que les populations ne comprennent justement pas les enjeux de la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos populations? Ou est-ce que c'est la fracture sociale dont parle M. Fofana de l'Indépendant?
Bon, moi, je vois sous d'autres aspects. D'abord, la question du chômage. D'abord, vous savez, aujourd'hui, il n'y a quand même pas assez d'éléments en jeu pour lutter véritablement contre le chômage. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'emballent vers la migration et vers ces mouvements terroristes. Vous prenez tout de suite la région de Mopti, comme il a dit. Aujourd'hui, en tant que tel, il n'y a rien. Mopti, Gao, Tombouctou et tout autre. Donc, il faut lutter contre le chômage et également pour freiner le départ massif de nos braves alliés, le serait également pour également freiner l'enrôlement de ces jeunes dans les mouvements terroristes. Ça, c'est très important. On va aussi parler de la sécurité. Tout de suite, j'allais parler de la création de certains mouvements. Vous avez parlé au début de l'émission. On a écho de la semaine dernière que les mouvements au niveau de la région de Mopti, les Dogons aussi ont créé une milice de toute défense qu'on appelle Dana Ambassago. Donc, tout ça dénote du fait que sur le terrain, il n'y a pas une forte présence militaire et également, donc l'armée n'y est pas, la population est vraiment
laissée à elle-même.
Donc, du fait, quand c'est comme ça, les gens s'organisent eux-mêmes et s'assurent leur défense, leur justice.
Donc, oui, c'est vraiment inquiétant. Quel est le risque, justement, de cela, Abdoulaye Guindo, du procès verbal? Si on a trop d'hommes armés dans le pays.
Le risque, c'est que ces groupes d'autodéfense, lorsque l'État va peut-être reprendre le terrain, ils vont vouloir poser des conditions.
Bien sûr.
Et là, cette fois-ci, ils vont se retrouver face à leur propre population. Et on ne sait pas comment est-ce que ça va se terminer. Comme Fofana l'a dit, il faudrait que l'État soit présent sur le terrain. L'État abandonne le terrain, les populations se sont organisées pour assurer leur propre sécurité, ils ont les armes qui circulent. Et lorsque l'État va revenir sur le terrain, ça va créer des problèmes parce que les gens vont poser des conditions.
Les milices Combo Yougo ont créé énormément de problèmes. Gouvernement burkinabé.
Alors, quand on parle de milices, on parle également de ces groupes armés-là, puisque le Gatia, par exemple, est un groupe armé hein, d'autodéfense.
Oui, le Gatia est un groupe armée dotée de défense.
Gandakoui, Gandaïjo.
La plateforme est reconnue par le gouvernement, est reconnue par les accords d'accord. Mais mon inquiétude, c'est quoi? On a vu le cas au Congo, les milices Zulu, les milices Requins, les milices Cobra et autres. Et on a vu le résultat final. Donc il faut.
Benjamin Sangala, très rapidement, le dernier mot.
Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que nous sommes en train vraiment d'aller vers ce qu'on appelle. Et parce que chaque communauté va finalement avoir sa milice. Vous voyez? Donc on a la milice peut-être de Gondé, on a la milice.
Vous pensez que la c'est milice. Possible avec 60 ethnies au Mali?
Bon, peut-être.
Plus de 60 ethnies au Mali. Non, hein.
C'est une inquiétude.
On est en train d'aller vers ça. Et chacun va vouloir en tout cas se protéger elle-même. Vous voyez? Et au-delà de ça, ça va amener d'autres conflits communautaires.
Mais
est-ce que, justement, M. Fofana, est-ce que vous pensez que le citoyen lambda comprend les enjeux sécuritaires qu'il y a aujourd'hui, hein?
Non, moi je crois que le citoyen, vous savez tous, c'est une question d'éducation.
Impuissant.
La population comprend. Parce que d'abord, c'est un phénomène nouveau, l'insécurité. Donc le problème,
on va dire ce type d'insécurité, puisque l'insécurité classique a toujours existé.
Hein. Bien sûr. Bon, même là, on ne parlait pas d'insécurité. Le vol, même hier, le petit vol dans le quartier. Mais braquage, vraiment, ou constitution de milices, vraiment, ça, c'est maintenant qu'on connaît. Donc moi, je crois que les populations, il y a une éducation, les gens commencent à comprendre. Mais ce que je veux dire, in fine, il faut un État fort. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais il faut les moyens. Il faut les moyens de lutte contre le terrorisme. Comme on a vu vraiment en Syrie, vraiment, ça me fait plaisir.
Ça passe aussi par les renseignements. Mesdames, merci, messieurs. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui qui a été réalisée par Ibrahim Arandjalo. Sedumbo était à la mise en onde, Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org. Merci, bon week-end.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Demandé.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.